Vous avez le coup d'État de 1932 qui impose une monarchie constitutionnelle au roi Prajapati, sur la base de l'alliance entre deux courants réformateurs, l'un issu de juristes majoritairement formés à l'étranger, l'autre issu de l'armée. La situation devient très vite instable. Le premier gouvernement ne tient pas plus d'un an. Et cette instabilité fait que le roi Prajapati s'exile entre 1935 et qu'une partie de la famille royale part également à l'étranger, et en particulier les neveux du roi, qui appartiennent à une branche de la famille royale successible de monter sur le trône.
Quelles sont les origines du roi Bhumibol ?
Le roi actuel est le fils du prince Mahidol, qui était médecin, et de son épouse, qui n'est pas du tout issue de l'aristocratie, qui est infirmière de formation. Le roi naît à Cambridge, dans le Massachusetts, en 1927. Son père meurt quand il est bébé. Et au regard des incertitudes déclenchées à partir de 1932, la princesse mère du roi actuel décide de partir avec ses trois enfants en Suisse, où il s'installe en 1933. En 1935, le roi Prajapati, exilé en Angleterre, abdique et la couronne passe au roi Ananda, le frère aîné du roi actuel. Ce dernier, qui a 10 ans à l'époque, va continuer à suivre ses études en Suisse. La famille va très brièvement passer en Thaïlande pour retourner après en Suisse. Le retour de la famille s'opère en Thaïlande après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945. Et se trouve que le jeune roi Ananda décède accidentellement en juin 1946. À ce moment-là, Bhumibol monte sur le trône dans des circonstances qui sont difficiles.
Bhumibol devient donc roi. Comment se caractérise le début de son règne ?
Il va continuer sa formation en Suisse. Il y reviendra en 1950 en Thaïlande, où à ce moment-là a lieu la crémation du corps du roi Ananda, le couronnement de l'actuel roi Bhumibol et son mariage. Il repart après brièvement à l'étranger en Suisse pour achever sa formation et ensuite la monarchie s'installe de manière pérenne en Thaïlande. Donc vous voyez, quand le roi actuel est revenu en Thaïlande, il est jeune et il se trouve, confronté à un gouvernement militaire autocratique qui n'a qu'une idée, qui est de marginaliser le jeune souverain. Et comme il le dit de même dans un interview, on m'en fait entendre que je n'ai aucune compétence et que je ne sais rien.
Du coup, comment est-ce que lui a réagi ?
Il a réagi, il avait fait des études, il avait des parents qui étaient brillants l'un et l'autre, et il a réagi de manière assez méthodique en ajoutant à la fonction traditionnelle de la couronne, sur la base des conseils qui lui avaient été donnés par les princes assurant la régence, donc ajouté au mandat symbolique de la couronne, des éléments qui sont de l'ordre de l'influence. C'est d'un côté être le promoteur du développement par le biais de lancement de projets patronnés par la couronne et la multiplication des donations royales. Deuxièmement, c'est jouer sur le plus grand dénominateur commun de la population en ayant une conformité exemplaire aux 10 vertus bouddhiques royales dans la tradition régalienne siamoise, et puis progressivement faire les grands rituels qui permettent de rétablir l'équilibre cosmologique de la Thaïlande, cet équilibre qui a été rompu par la succession de tensions qui a agité le pays depuis 1932. Parce que vous avez une fonction symbolique qui fait du souverain le garant d'un équilibre entre les mondes d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut. Si vous voulez, ces rituels liés à la royauté qui avaient été mis de côté par défaut dans la deuxième moitié des années 30 et au sortir de la guerre vont être progressivement remis en place. Ça revient à resacraliser la figure royale et s'est matérialisé par un élément qui est nouveau, qui est la convocation des sujets, au moins visuellement, pour voir les grands rituels de cour.
l'amour de la population ou la vénération aujourd'hui de la population vis-à-vis du roi est quelque chose qui est arrivé progressivement ou ça a été un coup de foudre en quelque sorte.
Cette reconstruction de l'image royale a été quelque chose d'extrêmement progressif. Quand le roi revient de manière permanente, la royauté est dans une position précaire, maintenue à minima. La totalité du pouvoir est aux mains de maréchal Pibun son crâne et d'un certain nombre de ministres issus de l'armée qui l'entourent. Donc ce que va faire le souverain, c'est de faire un profil bas. Il va même accepter très brièvement, puisqu'il a une formation juridique, de jouer les juges de première instance en 1952. Donc c'est un profil très bas. Mais il va profiter de deux instruments qui vont progressivement lui permettre à la fois de s'imposer par sa personne et ensuite de s'appuyer sur un réseau de conseillers et de collaborateurs. Le premier instrument, c'est le conseil privé du roi. Et le deuxième instrument, c'est le bureau des propriétés de la couronne, dont il n'a absolument pas la gestion, mais une fois qu'un certain nombre de dépenses courantes sont effectuées, notamment pour l'entretien d'une partie des palais et autres, le reliquat qui reste peut être utilisé à divers fins, notamment pour amorcer des projets de développement, etc. Donc c'est avec ces deux outils que très progressivement la couronne va récupérer à la fois de l'influence et une visibilité.
Une stratégie donc au long terme, est-ce qu'il en est l'instigateur principal ?
Il a été très bien conseillé par des gens qui avaient réfléchi sur le système, qui étaient brillants. Lui-même a été quelqu'un d'extrêmement sérieux personnellement et qui a méthodiquement appliqué et développé avec son propre charisme la stratégie de reconstruction d'image de la couronne avec les outils qui étaient à sa disposition. Avec une idée, et il le dit dans un interview dans les années 60, être roi, ça implique de faire quelque chose, c'est d'être utile. Ce qui va accélérer cette visibilité croissante de la couronne, c'est l'arrivée au pouvoir suite à un coup d'État du maréchal Sarit Anarat en 1957. Il met la royauté en exergue et il effectue en particulier un hommage public au souverain à sa prise de fonction de Premier ministre en février 59. À partir de ce moment-là, la figure royale et l'hommage au souverain va être indispensable à l'exercice du pouvoir politique réel. C'est-à-dire que militaires pendant toute la période de gouvernement militaire qui se succèdent par des coups d'État successifs avec de temps en temps des interruptions, vous avez du gouvernement civil, vont, si vous voulez, chercher à se légitimer, alors même que les institutions sont systématiquement court-circuitées, en rendant hommage au souverain.
Quel a été, tout au long de ces dernières décennies, le rapport entre le roi et les autorités, donc militaires, mais aussi puis civiles ?
Constitutionnellement, le roi est le chef des armées. C'est une qualité dont il a extrêmement rarement usé pour influer le cours des choses. Ça lui a permis, à des moments extrêmement précis, en particulier dans la décennie 80, de bloquer des coups d'État militaires. Donc il y a un lien très particulier, organique, entre le souverain et l'armée, qui est inscrit dans toutes les constitutions. À partir du moment où la constitution Sarit sous maréchal Sarit installe le roi en position de chef des armées, à partir de ce moment-là, ça le met en position de recours en des cas tout à fait exceptionnels. Ça n'empêche pas que lorsque c'est possible, il y a des retours à des gouvernements civils, bien évidemment, ça se fait aussi avec l'aval du souverain. On ne peut pas dire qu'au départ, la connexion entre le roi actuel et l'armée ait été facile et immédiate. Au début des années 50, ce n'est pas le cas. Donc, à partir du début des années 60, le rapport de prestige, d'influence, etc., entre le roi et l'armée, s'est inversé au profit du monarque, compte tenu de sa personnalité et de ce qui s'était passé pendant les années 50.
Il y a des cas concrets pendant lesquels il a agi. Est-ce que c'était le cas, par exemple, pendant la crise avec le clan Chinawatra ?
À ce moment-là, le roi avait vieilli, il a commencé à être hospitalisé de manière quasi permanente à partir de 2009. Donc la question ne s'est absolument pas posée. Il est intervenu de manière très exceptionnelle dans des situations de crise, encore pour dénouer la crise en 1992, quand vous aviez des affrontements à Bangkok entre un premier ministre, auteur d'un coup d'État l'année précédente, qui n'était même pas, qui n'avait même pas jugé la peine de se faire élire, et l'opposition qui réclamait un premier ministre élu. Là, il est intervenu et les élections ont été annulées. Mais c'est de manière assez exceptionnelle. Je dirais l'idéal du souverain, ce n'est pas de s'immiscer dans les affaires politiques, c'est de donner des avis lorsqu'il est consulté. Mais tout ça n'a rien de formel, et d'autre part, d'intervenir dans les champs qui sont ces champs d'intervention au titre de sa fonction royale, qui est une fonction d'un autre ordre que d'une fonction politique.
Pourquoi est-ce que son décès suscite-t-il de telles craintes ?
Parce que ça ouvre une période d'instabilité pour savoir comment le système va se remettre en place. Compte tenu de ce que je viens d'expliquer, de la longueur de son règne, de l'image personnelle du souverain, c'est un souverain auquel il est extrêmement difficile de succéder, quelle que soit la personne qui s'en chargera. Donc les gens sont soucieux de la suite et on est dans des logiques, si vous voulez, de fragilité après chaque succession royale en Thaïlande, où en fait ces équilibres qui sont non inscrits dans les constitutions, et on voit bien qu'en Thaïlande, les constitutions ne sont pas garantes de stabilité puisqu'elles sont systématiquement violées, donc on est dans une phase d'instabilité et les marchés réagissent à cela de manière négative.
Est-ce qu'on parle de la succession ou est-ce que c'est un sujet qui est tabou ?
C'est un sujet qui est réglé. C'est le prince héritier, c'est particulièrement clair et la question est réglée.
Est-ce que ça veut dire que le pays va fonctionner au ralenti et pendant combien de temps ?
Les institutions exécutives, l'exécutif va continuer à fonctionner et s'organiser à cette fin actuellement. C'est vrai que vous avez une période de latence dont personne ne connaît la durée. Le moment où un souverain décède est le moment où sa crémation a lieu, laquelle crémation est le préambule du couronnement du souverain suivant. Donc vous avez une période de latence pendant laquelle le souverain est juridiquement, constitutionnellement roi, mais il ne l'est que très imparfaitement sur le plan rituel et symbolique et cosmologique, parce que ça n'intervient qu'une fois qu'il est couronné. Il peut y avoir des mois ou des années.